Bienvenue sur Graines d'IUT, animé par des étudiants en BUT Génie Biologique, parcours agronomie de Digne-les-Bains. Notre émission est là pour vous divertir avec bonne humeur et spontanéité. Graines d'IUT, l'émission qui fait germer les idées.
Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h10 et ce soir nous allons vous parler de trois thématiques. Nous parlerons donc du tourisme de masse tout d'abord dans les stations de ski l'hiver et dans les gorges hivernales l'été. Un deuxième groupe passera et parlera des hybridations dans la nature et dans l'agronomie avec l'apparition de nouvelles hybrides identifiées donc. Et le dernier groupe passera sur la vie sociale et les loisirs en dehors de l'IUT de Digne-les-Bains. Donc je nous présente, nous sommes étudiants à l'IUT de Digne-les-Bains, tous en génie biologie, sciences de l'environnement. Et donc je m'appelle Mathias, je suis aujourd'hui avec Arthur, Célène et Luz. Et donc nous parlerons en première partie donc du tourisme de masse dans les stations de ski, et en seconde partie du tourisme dans les gorges du Verdon. Luz nous parlera tout à l'heure du tourisme dans les stations de ski et... Nous allons tout de suite écouter Dans ma cabane de Hendrik Aways.
Mais dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix sous les étoiles de mon désert. Dans mon petit coin, j'aime le grand air. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite pierre, j'aime pas demain, j'aime pas hier. Je regarde l'océan comme si c'était un être cher. Mais lâchez les cabanes s'ils sont trop lourds. Car pour aller là-bas, il faudra que tu cours pour t'arracher du quotidien, de ta vie, de tous les jours, de cette cage dorée nappée de velours. J'ai l'esprit voyageur, j'imagine comment c'est ailleurs. J'aimerais bien voyager à la vitesse de ma pensée. Tu y as pensé, et ça t'a paru insensé. J'ai essayé, ça a marché. Je me suis retrouvé loin de tout ça, loin de cette vie qui ne me va pas, loin de ces gens qui marchent au pas et qui ne se regardent pas, loin de ces gens qui pressent le pas. Tu veux rester? Bah moi je me casse de là. Mais oui, c'est hors des sentiers battus, loin de la ville et loin des rues, loin de ces coins que l'homme pollue. Un coin tranquille, un peu perdu, ouais, ouais, ouais. Hors des sentiers battus, on se sent bien, on marche pieds nus, ouais. Hors des sentiers battus, on se sent libre, on se met nu, ouais, ouais. Tu passes ta vie à 100 à l'heure sur l'autoroute du malheur, à regarder les kilomètres défiler sur le compteur, sans penser à t'arrêter toutes les deux heures, sans penser à méditer sur les causes du bonheur. Mais oui, c'est il est plus que temps, man, de faire une pause. La ville, la malbouffe, la pollution, c'est bon, j'ai ma dose. Oui, il est plus que temps, man, de faire une pause. La ville, la malbouffe, la pollution et tout le stress. Il faut faire bonne figure et faire tourner le business. Oh. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix sous les étoiles de mon désert. Dans mon petit coin, j'aime le grand air. J'ai mon petit joint, j'ai ma petite bière, j'aime pas demain, j'aime pas hier. Je regarde l'océan comme si c'était un être cher. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix. Ouais, 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 ouais. Mais dans ma cabane, dans ma forêt, dans la montagne, je suis en paix. Ouais, 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 ouais. Mais oui, c'est hors des sentiers battus, loin de la ville et loin des rues, ouais, loin de ces coins que l'homme pollue. Un coin tranquille, un peu perdu, ouais, ouais, ouais. Hors des sentiers battus, on se sent bien, on marche pieds nus, ouais. Hors des sentiers battus, on se sent libre, on se met nu, ouais, ouais, ouais. Yeah, yeah, yeah.
Rebonsoir, du coup on se retrouve sur Fréquence Mistral et donc comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, nous parlerons donc du tourisme de masse dans les stations de ski. Alors Luz, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du tourisme de masse justement dans les stations de ski s'il te plaît?
Oui, en effet, pour le ski, il y a de nombreuses personnes qui vont venir dans ces stations. Il faut donc de nombreuses stations pour cela, mais malheureusement, il y a de nombreuses stations qui souffrent du manque de neige. En effet, on va avoir des neiges qui vont tomber plus tardivement, qui vont rester moins longtemps et avec une épaisseur de neige plus petite. Par exemple, il y a plus de 150 stations en France qui ont déjà fermé à cause de cela. Et selon une étude de Nature Climat Change, si on aurait une augmentation de plus de 3 degrés de la température mondiale, on aurait plus de 93 stations dans les Alpes et plus de 98 stations dans les Pyrénées qui seraient mis en défaut à cause de ce manque de neige.
Célène, est-ce que tu peux nous en dire plus aussi, s'il te plaît ?
Alors, nous savons qu'en France, seulement 35% des domaines skiables sont équipés d'enneigeurs. Jusqu'à présent, les stations se sont principalement adaptées en produisant de la neige artificielle ou de culture, ce qui entraîne une augmentation de la demande en eau, qui depuis les années 2000 est multipliée par 3. De plus, les stations utilisent la technique de damage qui sert à entretenir l'enneigement. Le même principe qu'un potager, pour avoir des bons légumes, il faut s'en occuper.
Très bien, merci Céline. Et Arthur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coût économique justement de cet enneigement artificiel, s'il te plaît ?
Eh bien, les canons ont un principal défaut qui est de du coup beaucoup consommer d'eau pour produire de la neige. Et ils ont un impact direct sur le cycle de l'eau donc dans les montagnes. Et par exemple, dans les stations en Suisse, les stations du coup utilisent en moyenne 400 000 mètres cubes d'eau pour une saison, donc ce qui représente des quantités astronomiques d'eau juste pour produire de la neige, qui en plus, vu qu'elle est artificielle, elle est plus lourde que la neige classique, et ça va avoir aussi un impact sur la flore et la faune, vu que la flore au printemps, avec ces neiges du coup plus lourdes, va avoir plus de mal à bourgeonner et à percer la neige pour du coup fleurir. Et bien sûr, il tourne la nuit pour avoir les bonnes conditions météo pour produire de la bonne neige. Et du coup, ça engendre du bruit qui peut perturber la faune nocturne des montagnes.
Très bien, c'est vrai. Et Célène, par exemple, est-ce qu'il y a des solutions et d'autres alternatives pour pallier justement à cet enneigement artificiel ?
Alors oui, tout à fait. Nous connaissons aujourd'hui le snowforming, qui est une technique ancestrale finlandaise remise au goût du jour, qui permet donc de conserver la neige et de la réutiliser l'hiver suivant. L'entreprise SnowSecure a adapté cette technique en développant des tapis en polystyrène extrudé, donc qui est un matériau qui est synthétique et qui est créé à partir de pétrole. Cette technique est donc de plus en plus utilisée surtout pour les compétitions comme par exemple les JO ou les compétitions internationales. En Chine aussi, les skis dôme et le ski sous cloche est très popularisé. C'est un bâtiment refroidi comme un peu le patin à glace avec de la pente où la neige est créée et travaillée aussi afin de créer une piste d'une dizaine de mètres qui sert surtout à l'initiation au ski. En Chine, les skidômes sont vus comme un parc d'attractions et en France, la France a essayé donc de créer ces skidômes à Tignes, en Haute-Savoie, mais ce projet avait un fort coût, à peu près 62 millions d'euros, ce qui est énorme. Et très peu d'adeptes, car en France, nous connaissons la bonne neige, et donc nous préférons ça être dans un bâtiment. Aussi, une autre alternative, mais d'urgence, qui n'est pas du tout bien, surtout en ce moment, c'est aux Deux Alpes, en 2015, c'est une solution qui a été mise en place d'urgence. Donc, le principe était d'héliporter de la neige dans les filets permettant d'amener une centaine de tonnes matin et soir. Cette neige était récupérée bien sûr en altitude et déposée sur la paille aux endroits critiques, mais là où il fait chaud, donc la neige fondait, donc ce n'est pas du tout bien pour tout ce qui est glaciation et tout.
Effectivement, c'est vrai que ces solutions sont malgré tout des alternatives de dernière urgence et elles contribuent seulement au manque de neige, mais elles n'arrangent pas d'autres problèmes tels que le dérangement de la faune et de la flore. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît, Luce ?
Oui, bien sûr, notamment sur le dérangement de la faune. On a l'exemple du tétralyre, qui est donc une sorte de gros dindon qu'on retrouve entre 1400 et 2500 mètres d'altitude, qui va donc vivre caché sous la neige et ne ressortira que quand il aura besoin de manger. Seulement, quand on crée des pistes, des bâtiments, ça peut détruire son habitat. Et des fois, les skieurs qui passent proche des endroits où il a mis ses abris sous la neige vont le déranger. Il va prendre peur, fuir et partir de son abri et va donc perdre beaucoup d'énergie à devoir faire un nouvel abri.
Très bien, merci Luce. Ceci dit, il existe d'autres problèmes vis-à-vis de l'environnement, étant donné que beaucoup de personnes prennent les transports. Arthur, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ?
Alors, oui, bien sûr. Beaucoup de vacanciers vont donc en vacances en voiture et prennent les routes de montagne qui sont plus dangereuses que les autres, car y a de la neige, il fait froid, donc ça gèle, etc. Du coup, certaines stations ont mis en place des alternatives pour transporter les visiteurs de la ville la plus proche vers la station qui est du coup plus haut sur la montagne. Donc pour ça, ils incitent les touristes à acheter par exemple grâce à un forfait qui comprend dans le prix du transport pour aller jusqu'à la station et le prix du séjour qui revient du coup moins cher que s'y rendre en voiture, ce qui incite plus les visiteurs à prendre autre chose que la voiture et donc qui réduit les impacts du coup des voitures sur l'environnement de la montagne.
Très bien, merci Arthur. Donc malgré tout, il n'y a pas que des problèmes justement aux stations de ski. Et Célène, tu vas nous parler un petit peu des travaux qui sont engendrés justement vis-à-vis de ce tourisme de masse dans les stations de ski, s'il te plaît.
Donc oui, la montagne est un lieu économiquement important. Il y a plus d'une quinzaine de métiers différents et je pense que j'en aurais oublié. Tout d'abord, il y a les métiers liés directement à la station, comme les moniteurs de ski. Je pense que vous en avez tous déjà vu avec les petits blousons rouges. Il y en a environ 20 000 en France. Ensuite, il y a les accompagnateurs de moyenne montagne. Ils sont 5 000 et c'est pour les promenades à pied ou en raquette. Nous avons aussi pour tout ce qui est sécurité, les pisteurs secouristes qui installent aussi les filets de protection et les pancartes, les balises, histoire que vous ne vous perdiez pas dans la station. Les sauveteurs aussi de montagne qui sont là pour votre sécurité mais hors domaine skiable. Il y a aussi les conducteurs d'engins de damage. Les électrotechniciens et électromécaniciens des remontées mécaniques. Donc quand le petit télésiège a un problème, vous êtes bien content qu'il soit là. Et ensuite, il y a les shapers de snowpark. Le mot shaper vient de l'anglais, donc qui est de shaper, donc tailler. Et ils servent à sculpter les rampes de lancement pour faire des petits sauts, si vous êtes à l'aise. Les niveauculteurs aussi assurent la maintenance des stations d'enneigement. Il y a aussi, bien sûr, les vendeurs de forfaits, car ce n'est pas gratuit de skier, et les directeurs de stations avec tout ce qui est manager. Ensuite, nous avons aussi les métiers liés indirectement, enfin qui sont à côté des stations, donc les skiman et les skiwoman, parce qu'il ne faut pas les oublier. Donc, ils permettent de louer, de vendre et de réparer le matériel de ski. Il y a aussi les animateurs du coup, qui font des animations pour vos enfants et même pour les grands. Les métiers aussi de la restauration, donc tout ce qui est serveur, barman et cuisinier. Les réceptionnistes aussi d'hôtellerie, pour tout ce qui est hôtel, pour dormir au chaud dans un bâtiment sympa. Les femmes et les valets de chambre aussi. Et les directeurs d'office du tourisme et les employés qui vont avec.
Très bien, merci Célène. Donc on finit et on conclut donc sur cette partie en sachant que donc le ski est tout de même une activité que beaucoup de gens veulent pratiquer et qui malgré tout a de plus en plus de mal à se développer étant donné que le réchauffement climatique n'arrange pas les choses. Et donc nous parlerons du coup en seconde partie du tourisme de masse dans les gorges du Verdon, juste après la musique Bilan Carbone de Benoît Dorémus.
Quand je me douche plus de 10 minutes, je pense à l'ours polaire que je bute. Quand je m'emmerde dans les bouchons, J'imagine un iceberg qui fond. Si je laisse ma télé en veille, je m'endors d'un mauvais sommeil. Et si mes nuits sont polissonnes, j'assume pas mon bilan carbone. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Quand je passe l'aspirateur, je pense à des kilowatts-heure. Quant à mon chat qui est tout fripon, c'est un tigre en voie d'extinction. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Si je mange un fruit exotique, c'est pour qu'il reparte pas en Afrique. Une fois par an, quand je prends l'avion, pense à l'ozone que nous avions. Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux. Existe-t-il ce coin tranquille où ma présence serait neutre? J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux.
Rebonsoir, on se retrouve donc pour la deuxième partie qui parle donc du tourisme de masse dans les gorges du Verdon. Et donc nous parlerons justement dans cette deuxième partie tout d'abord des feux de forêt autour du Verdon. Donc le dernier date de juillet 2024, ils sont assez fréquents dû au fait que donc, les feux de forêt sont assez présents donc, sur le sud de la France. Et en juillet 2024, il a brûlé seulement 3 hectares dû justement à l'intervention rapide des pompiers. Ceci dit, il y a tout de même des gestes à respecter tels que ne pas jeter ses cigarettes au bord de la route, ne pas allumer de feu, etc. qui sont des règles plutôt logiques mais qui sont tout de même rappelées dans des panneaux d'information dans les endroits où les touristes ont tendance à le plus aller. Ceci dit, si ces règles ne sont pas respectées, des éco-gardes peuvent tout de même venir vous donner une amende si ce n'est pas respecté donc. Ensuite, cela est aussi dû à une sécheresse plus conséquente l'été. Lou, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces quelques conséquences de la sécheresse, s'il te plaît ?
Oui, en effet, la sécheresse, elle va aussi induire un manque d'eau, notamment sur le fleuve, le Verdon, et poser beaucoup de problèmes pour tout ce qui va être canoë, kayak, rafting, etc. Notamment, on a l'été 2022 où il y a plus de 25 km du Verdon qui ont été interdits aux canoës, aux kayaks et au rafting parce qu'il y avait trop peu d'eau. Et EDF, normalement, dans ces situations-là, il fait des lâchers d'eau pour permettre qu'il y ait assez d'eau pour cela. Mais malheureusement, là, ils ne pouvaient pas faire de lâchers d'eau parce que sinon, il y avait un risque de ne pas avoir assez d'eau pour l'agriculture, de ne pas avoir assez d'eau pour la distribution dans les robinets, etc. Et en plus, il fallait des réserves contre les possibles feux de forêt. De plus, en plus de tous ces problèmes d'eau, il y a certains endroits où, malgré le fait que ça soit interdit par des arrêtés préfectoraux d'y aller en kayak et en canoë, on va avoir donc des touristes qui vont quand même décider d'y aller. Et donc, leur canoë va ou leur kayak risque de racler l'eau. Et donc, ça va desservir déverser des microplastiques dans l'environnement. En plus, cela peut aussi nuire à certains macro-invertébrés qui sont présents dans le sol du cours d'eau et en tuer certains et donc déranger cette espèce.
Merci Luz. C'est vrai que donc, c'est un problème au niveau aquatique qui dérange la faune. Ceci dit, il y a un autre problème au niveau de la faune. Célène, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ?
Alors, nous connaissons tous les gorges du Verdon et le fameux vautour qui s'y trouve. Cependant, pour conserver le vautour dans les gorges du Verdon, il faut quand même quelques règles, surtout au moment des nidifications de celui-ci. Nous avons déjà pas mal de voies d'escalade, il y en a 76 voies d'escalade qui peuvent être atteintes par la nidification du vautour. Parce que le vautour choisit ses endroits pour faire ses nids, mais il ne regarde pas s'il y a des voies d'escalade ou pas. Et donc, du coup, il faut faire attention, surtout de janvier à mi-août, il faut éviter d'aller faire de l'escalade dans certaines voies, voire quasiment toutes, car il y en a quand même pas mal. Il y a quand même des panneaux au début des voies qui vous disent un peu la problématique, mais cependant, les voies ne sont pas interdites. Il y a aussi le problème des drones, donc tout ce qui survole donc les nids des vautours, qui les effraie, et donc ces vautours partent et laissent leurs œufs dans le nid et donc les abandonnent. Au niveau des drones, il y a quand même une réglementation qui a été faite. Pour commencer, il y a une carte avec tout ce qui est zone où il ne faut pas les survoler. Il y a quand même des zones où il faut vraiment, c'est interdit tout le temps, toute l'année, et il y en a d'autres où c'est interdit que de janvier du coup à mi-août. Et donc il faut faire attention à ça et éviter aussi de faire trop de bruit car ça dérange aussi les vautours dans leur tranquillité.
Très bien, merci Célène. Donc nous avons pu voir ici que la faune pouvait être dérangée vis-à-vis des activités de surtourisme avec le canoë-kayak et donc l'escalade par exemple. Ceci dit, il peut y avoir d'autres problèmes vis-à-vis du tourisme de masse, comme par exemple la grosse consommation de crème solaire. Célène, est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors oui, donc depuis notre enfance, les médecins à chaque fois nous disent de mettre de la crème solaire pour éviter tout ce qui est cancer de la peau et éviter aussi les coups de soleil parce que ça fait mal. Seulement, cette habitude a été prise par tout le monde et donc ça a permis à ce que chaque année, il y a 25 000 tonnes de crème solaire qui sont déversées dans les océans. Donc ça équivaut à peu près à 48 litres par minute dans le monde, ce qui est énorme. Bon, beaucoup moins en hiver qu'en été, bien sûr. Ensuite, nous savons aussi, les études ont démontré que 20 minutes de baignade enlevait 25% de la crème solaire étalée sur tout le corps, qui sera du coup diluée dans l'eau et retombera dans les océans. Donc ce qui est quand même énorme. Alors, 4 lycéens du lycée Fénelon à Nice ont fait des expériences et ont interrogé des scientifiques pour savoir exactement les effets néfastes de la crème solaire sur tout ce qui est faune, flore et tout ça. Alors pour commencer, il y a environ 33 filtres chimiques qui sont présents dans les crèmes solaires, ce qui est quand même énorme. Et lorsque ces filtres se retrouvent dans l'eau, ils forment des agrégats et donc ils empêchent la photosynthèse de zooplancton, ce qui biaise énormément la chaîne alimentaire. Après, pour tout ce qui est alimentation du phytoplancton et après tout ce qui est poisson. Mais il existe maintenant des crèmes solaires avec des filtres minéraux, ce qui est mieux, mais bon, c'est quand même du dioxyde de zinc et du titane qui sont utilisés. Il y a bien sûr un filtre qui forme une petite bulle autour de ces composés qui ne soit pas toxique pour l'homme. Donc, ils sont quand même un peu toxiques et c'est pas super bien. Et donc, on ne sait pas encore combien de temps ces filtres à filtres restent dans l'environnement. Et donc, ce n'est pas mieux.
Très bien, merci Célède. C'est vrai que c'est un problème qui est malgré tout conséquent. Est-ce que on a, par exemple, des alternatives pour pouvoir pallier à ça, s'il te plaît ?
Alors, il y a aussi la crème solaire qui est donc plus biodégradable et plus fait pour l'environnement. Mais cependant, cette crème solaire n'a pas fait beaucoup de tests. Nous avons des résultats de tests, mais que sur des petits échantillons et nous ne savons pas son effet sur le monde entier. Et ensuite, nous avons aussi la bonne technique des vêtements anti-UV, ce qui est le plus recommandé. Et ensuite, il faut aussi ne pas sortir sous le soleil de midi à 16 heures en été. Et penser à se couvrir avec un chapeau, une casquette, et privilégier les coins à l'ombre.
Très bien, merci Célène. C'est vrai que ces alternatives sont tout de même plus éco-responsables en tout cas. Arthur, est-ce que tu peux nous parler un petit peu aussi du transport vis-à-vis des touristes qui viennent assez nombreux malgré tout l'été voir nos magnifiques gorges du Verdon, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Les gorges du Verdon, donc, incitent les visiteurs à venir les traverser en voiture pour pouvoir bien admirer le paysage, ce qui dénote un peu de ce que disait Célène tout à l'heure en parlant des vautours et du peu de bruit qu'il doit y avoir pour ne pas les déranger. Et donc, c'est quelque peu contradictoire car ils font plusieurs démarches de prévention pour la faune et pour la flore, mais en même temps, ils incitent beaucoup les visiteurs à venir et ne font pas beaucoup de solutions, comme il y a par exemple dans les gorges de l'Ardèche, autre gorge, ou pour aller visiter le pont d'Arc. Ils ont installé des petites navettes qui transportent du coup plusieurs personnes et du coup réduisent le coût en CO2 des touristes, qui malgré tout représentent pour les voitures 22% des émissions nationales de CO2, ce qui est conséquent. Malgré tout, les gorges ont récemment installé un petit bus qui est plus responsable et qui les traverse pour que les touristes puissent admirer les gorges tout en étant un peu plus éco-responsables sur l'environnement.
Très bien, merci Arthur. Donc nous terminons cette deuxième partie sur le tourisme de masse donc dans les gorges du Verdon. J'espère que vous avez pris conscience un petit peu de l'impact que peut avoir tout ce tourisme et dans les stations de ski et dans les gorges du Verdon, et que vous ferez peut-être un peu plus attention à vos façons de faire en allant au ski ou en vacances. Tout de suite, nous envoyons la musique ironique évidemment de Nikon la planète, de HK et les Saltimbanques.
Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. De la dioxine dans nos desserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète.
Niquons la planète.
Niquons la planète.
Niquons. raison d'être.